Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, on reçoit Maître Bérard qui vient nous parler d'un article qui est écrit sur une histoire rocambolesque d'un avocat de couleur noire qui s'est fait arrêter, comment il a vécu ça. Ensuite, il y a une dame qu'on peut pas dévoiler son identité. Il nous parle qu'il y a un agresseur qui a récidivé, qui a violé des femmes. Et là, il serait sur le point de ressortir et ça inquiète beaucoup. Est-ce qu'il pourrait recommencer? Il y a Matt Sharon Otis qui nous parle des tribunaux qui sont spécialisés dans le domaine, qui pourraient, on veut mettre en place des tribunaux spécialisés pour les agressions sexuelles et la violence conjugale. Et Luc La Liberté également nous revient sur le procès de Donald Trump qui est en cours pour sa destitution. Votre émission commence maintenant.
Vous écoutez
Avocat à la barre.
On parle beaucoup de l'affaire Camara, bon, qui a été accusé à tort. Ça a soulevé l'histoire de est-ce que ça peut être du profilage racial. Bon, c'est un débat qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça existe? Mais il est quand même arrivé toute qu'une histoire à un avocat qui est noir, qui c'est maître qui est, j'ai de la misère à dire le nom, désolé, mais c'est maître Yeboa. Et lui s'est fait arrêter là, d'une manière arbitraire. C'est digne d'un film, cette arrestation-là, devant sa jeune fille en plus. Et il y a maître Frédéric Bérard, docteur en droit, qui a écrit là-dessus dans le journal Métro à sa chronique In Libro Veritas, qui est avec maître Bérard avec nous. Bonjour.
Salut.
Donc, j'ai lu cet article-là qui est très bien écrit. Tu as reçu l'avocat en question en entrevue. Puis il t'a expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé. Et bon, première question, qu'est-ce que ça veut dire Libro Veritas à ta chronique? M'as-tu au clair?
L'espèce de, comment je dirais, de livre de vérité.
OK, c'est toute la vérité, OK, à peu près.
Ben, ouais, si on peut dire, évidemment, il y en a qui seraient en parfait désaccord avec
bon.
mais je l'assume.
C'est parfait, ça, c'est réglé. Bon, on va sur le vrai cas, on fait des blagues, mais c'est quelque chose, je pensais pas voir ça. Il me semble que ça va pas avec le Québec, là, ce qui s'est passé. Raconte-nous, là, qu'est-ce qui t'a expliqué, qu'est-ce qu'il a vécu? Là?
Ça ressemble plus au Mississippi qu'au Québec, hein?
Ouais.
Écoute, moi, ça m'a marqué cette histoire-là. J'ai eu vent de ça brièvement, et on a un ami en commun, qui, quand j'ai écrit sur l'affaire Camara, a dit « Tu devrais parler à mon ami Yeboa aussi et tout. » Ben, mets-nous en contact si tu veux, ce qu'il a fait. Je l'ai eu en Zoom 20-30 minutes lundi. Je voulais le voir, je voulais lui parler, je voulais comprendre les détails de l'affaire parce que ça me semblait... Ben, je veux dire, est-ce que c'est si surprenant que ça quand on y pense? Peut-être pas, mais reste que c'est, on est quand même dans le caractère de l'exception beaucoup plus que de la règle, et heureusement.
Mm-hmm.
Et j'ai expliqué l'histoire tout de suite après, mais je peine à croire que des choses comme ça puissent encore arriver en 2021. L'histoire est la suivante, tu l'expliquais un peu, il est dans un véhicule avec sa fille, son adolescente de 15 ans. Il est dans la Mercedes blanche, me dit-il en riant, de sa conjointe. Il est sur René Lévesque S, il s'en va au quartier chinois chercher un truc comment on appelle ça, le voyons,
pour emporter, là.
Pour emporter, ben oui, c'est aussi con que ça. Bref, et tout juste avant d'arriver à la dernière lumière, ou presque, il s'arrête, et là, il voit qu'il y a une voiture du SPVM avec deux policiers à l'intérieur. Le policier, le dévisage, bon, habitué, pas plus grave que ça, ils font ce qu'on appelle un eye contact, et puis bon, ils continuent après. Et le policier allume les lumières, les policiers allument les lumières, l'arrêtent, et là, sa fille lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Il dit, ben, je sais pas. Mais elle dit, mais là, c'est ce qu'on a fait. Ben, il dit, on n'a rien fait, ils font ça parfois, ils nous arrêtent pour... Tu sais, genre de truc que toi et moi, ça nous arrive pas, ça. Une interpellation comme ça, quand t'es blanc, là, t'as pas ça. Mais lui, oui. Puis comme la plupart des Noirs à Montréal vont te le dire, ça arrive, c'est monnaie courante. Ben, il se panique pas plus que ça. Jusqu'au moment où il voit qu'il y a un deuxième char du SPVM qui débarque à sa droite, et là, il commence à trouver qu'il y a quatre policiers pour quelque chose qu'il comprend pas, ça commence à être beaucoup. Et là, les premiers débarquent, ils disent, bon, ben, ton permis, enregistrement et assurance. Puis là, il le tutoie comme s'il y avait clairement un manque de respect déjà à la base. Il donne son permis tout de suite. Il dit, ben, donne-moi une seconde des enregistrements, c'est pas à moi le char. Il dit, t'as qui le char? Il dit, c'est le char de ma conjointe. Il dit, OK, ben, trouve ça. Puis là, il cherche un peu, là, tu sais, mais c'est normal. Moi non plus, je trouve jamais mes enregistrements, puis le char est à moi. Alors, je cherche ça. Le policier retourne dans son véhicule. Et là, il dit, je vais me faire gâter parce que, bon, il n'y avait pas sa preuve d'assurance non plus. Mais là, il a le réflexe, il va voir dans son téléphone, dans ses courriels, et il va chercher la preuve d'assurance en question. Et là, il est content, il a les enregistrements, l'assurance. Il sort du véhicule pour dire au policier, c'est beau, ça va, donne-moi pas de contravention, je les ai trouvés.
OK, il est sorti.
Il est sorti pour leur dire, ça va, je les ai, regarde, voici mes enregistrements et je vais te montrer mon courriel, comme quoi que j'ai la preuve d'assurance. Il dit, aussitôt que je suis sorti du véhicule, les policiers m'ont ramassé, ils m'ont tapé la tête sur la vitre de mon char.
Aïe, aïe, aïe.
Et ils m'ont fait la clé de bras et lui ont mis des menottes. Des menottes.
Ça n'a pas de sens.
Il dit, là, t'es en état d'arrestation pour faux permis. Il dit, pour faux permis? Qu'est-ce que c'est ça, un faux permis? Il dit, pas de faux permis. Et là, sa fille, qui est complètement paniquée, tu te comprendras, elle sort. Elle dit, qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a rien fait et tout. Il dit, soit mêle-toi pas de ça, rentre dans l'auto si tu veux pas avoir de trouble. Fait que là, évidemment, imagine la fille qui a quatre policiers autour d'elle, elle a paniqué raide, elle rentre, et au même moment, il y a un troisième char du SPVM qui débarque.
Son
policier. Et là, lui, il a la face dans la vitre, il est menotté, et là, il comprend rien, il dit, pas permis. Puis moi, je l'ai eu, là, plusieurs minutes en entrevue. Je dis, mais ça se peut-tu, ça, un faux permis? Je sais pas qui ferait ça. Je connais pas la pratique des faux permis au Québec. Ben, il dit, j'ai pas de faux permis. Je leur disais, regardez, c'est la SAQ qui m'a émis le permis. J'ai pas inventé ça, là, à plaider. Je sais pas, faites quelque chose. Puis dans tous les cas, si ça existait, une infraction de faux permis, entre toi et moi et la boîte à bois, penses-tu que tu mets des menottes à quelqu'un à coups de sifflet pour ça? Tu lui donnes une sommation pour comparaître, puis regarde, ça finit là. Je veux dire, voyons.
Non, mais tu lui poses des questions. Je veux dire, c'est comme s'il avait réagi en pensant qu'il était menaçant parce qu'il sort de son véhicule. C'est...
Ouais. Voyons donc.
On n'est pas... il y a des villes plus dangereuses, on s'entend. Puis ben, Delphi...
parce que si tu voyais le gars, écoute, un gars tout calme, tout zen, gentil comme tout, là, tu sais, je sais pas comment te le décrire autrement, là. Un gars, là, vraiment, là, un bon gars, là. Tu sais, honnêtement, il lève pas le ton. Et là, tu brasses pas un gars comme ça. Il y a aucune raison, là. Moi, je peux pas imaginer ce gars-là être menaçant deux secondes.
Mm-hmm.
Et là, ça passe la chose suivante. Les deux policiers embarquent dans leur auto.
Là, c'est un avocat, en plus. Oups!
Oui! Mais attends, regarde, écoute bien ça. Il rentre dans l'auto, dans la sienne, je crois. Et là, il y en a un qui est en train de regarder son téléphone cellulaire et l'autre en train de regarder son portefeuille. Et là, il se fâche.
Il fouillait son téléphone cellulaire?
Il fouillait son téléphone. Il pense-tu?
Non,
il dit, vous pouvez pas faire ça. Je suis avocat, c'est le secret professionnel. J'ai de la correspondance là-dedans. C'est protégé par le même secret. Vous n'avez pas le droit de fouiller là-dedans. Puis là, ils l'ont regardé, puis ils sont partis à rire. Il y en a un qui a dit, je pense, t'es avocat, toi, ou quelque chose du genre. Bref, il ne croyait pas du tout. Et en continuant à fouiller, un des gars qui regardait dans le portefeuille est tombé sur sa carte. C'est drôle, il m'a parlé de la carte de...
du barreau.
Étudiant au barreau. Et après ça, il est tombé sur la carte membre du barreau. Et là, apparemment...
Ben, parenthèse, tout avocat en pratique a une carte disant qu'il est en pratique. Donc, ils ont tombé là-dessus. Là.
Exact. C'est ça. C'est ce qui a fait en sorte que là, la face leur a changé. Puis la petite arrogance, pour pas dire l'énorme arrogance, s'est évanouie un peu. Et là, ils ont fait, oh, là, et là, on est peut-être dans le trouble. Mais juste une petite parenthèse, si ce gars-là, il est pas avocat, là, il se passe quoi? Ça, l'histoire le dira pas. Donc, je ferme ma parenthèse. Oh, puis là, ils comprennent qu'il est avocat, puis là, qu'ils sont dans le trouble. Mais il y en a un des deux, ou des six, là, je sais plus, c'est les mêmes, qui lui disent, écoute, ça, c'est phénoménal. Il dit, écoute, mon gars, si tu promets de ne pas te fâcher, il part, il dit, ne pas me fâcher. Il dit, mais niaisez-vous. Il dit, non, il dit, écoute-moi là, si tu me promets de ne pas te fâcher, on va te laisser aller, on va juste te donner une contravention pour cellulaire au volant. Mais je n'ai pas parlé de cellulaire au volant. C'est quoi cette affaire-là? Je ne vais pas prendre une contravention juste pour fermer ma gueule puis m'en aller. C'est pas vrai, je ne peux pas vous parler. Et là, ils se sont obstinés pendant quelques secondes et ça. Puis là, quand ils ont compris que, OK, là, ils ne sont pas tombés sur le bon gars, ben ils l'ont laissé aller, pas de contravention, merci, bonsoir. Et ce gars-là fait une plainte en déontologie policière plus une plainte à la Commission des droits de la personne.
OK, là, il a fait des plaintes.
C'est
mais,
tout à fait.
Tu sais, je veux dire, ça va être difficile. Là. Le pire, c'est tu sais, je le crois, là, mais comment prouver tout ça? Il y a sa petite fille, il ne voudra peut-être pas les comment qu'il a vécu ça avec sa. C'est ça que je trouve là, difficile. Ça,
l'histoire se finit de cette façon-là. Puis moi, ça m'a. Écoute, ça m'a brisé le cœur. Ma fille est un petit peu plus vieille, mais pas tant que ça. Puis moi, je m'imaginais à sa place.
Ouais.
Moi, ça m'était arrivé, là. Puis il me dit, fâche-toi pas. Moi, c'est clair que je me fâchais tellement que c'est moi qui se ramassais en prison. Puis là, il y aurait eu des bonnes raisons, je te jure. Parce que tu me fais ça devant ma fille en plus. Et tu insultes ma fille, puis tu menaces ma fille. Bref, quand ils sont partis, là, tout le monde est terrorisé. Et moi, j'ai posé la question, ça t'est déjà arrivé, ça, avant? Ben, il dit, ben oui, c'est sûr. Il dit, je teins noir. C'est classique, là, je me promène avec un char de luxe. Qu'est-ce que tu veux? C'est tout le temps comme ça. Mais là, il dit, cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. J'ai dit, quoi? Ben, il dit, ma fille était avec moi. Puis là, sa voix s'est cassée. Tu voyais, là, qu'il devenait émotif. Pas beaucoup, cela dit, c'est un gars qui est quand même, je te dirais, plutôt imperturbable, mais là, c'était quand même beaucoup. Et il dit, ouais, ma fille est avec moi, puis tout de suite après, elle m'a demandé, elle dit, papa, est-ce que c'est comme ça à chaque fois que tu sors de la maison?
Ouais.
T'y penses-tu? Elle, là, cette petite fille-là, qui a 15 ans, elle voit son père comme un avocat respecté, respectable, un gentil monsieur, je le connais pas plus que ça, là, tu sais, je veux pas valider l'ensemble de sa vie, là, mais tu sais, il m'a tout l'air de quelqu'un qui est bon, parfaitement respectable, qui est arrivé du Ghana, il avait l'âge de 8 ans. Ghana, c'est un pays anglophone, ben, il y a plusieurs membres de sa famille indirecte qui sont partis en Ontario, son père dit non, on reste au Québec, on va apprendre le français, on va vivre en français ici. Mm-hmm. Il est québécois, là, de A jusqu'à Z. Et là, cette petite fille-là voit son père se faire tapocher par 6 flics, par des gros goons sans jugement, qui sont nécessairement racistes. Je suis désolé, ça, c'est du racisme clair. Et elle doit se dire, OK, mais moi, qu'est-ce qui va m'arriver dans cette société-là?
Ah non, c'est certain que c'est marquant. Puis comme on dit toujours, on va suivre avec attention ces plaintes-là, ce développement-là, parce que ça n'a pas d'allure, là, ça s'est passé comme ça.
La question de la preuve est difficile, parce que là, c'est parole contre parole.
Ouais.
Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est quand il a annoncé l'affaire dans les médias, ben les médias ont appelé. Moi, j'ai fait une chronique, mais mon journal, le Métro, a téléphoné le journaliste qui a fait un premier article informatif là-dessus. Le SPVM n'a jamais voulu répondre quoi que ce soit, ni le bureau de la Ville de Montréal.
Ah non, c'est sûr que si ça s'est pas passé comme ça, c'est honteux. Puis on le sait, c'est une pomme pourrite dans ce lot-là. On vient pas dire que tous les policiers sont comme ben, ça. Mais comme tu dis souvent... Peut-être qu'il est temps de faire la lumière, parce qu'effectivement, des jeunes, si c'est réel, tout ça, ce profilage racial-là, il faudrait que ça soit réglé. On n'est pas fiers quand ça arrive au Québec. Mais c'est tout le temps qu'on avait, c'est marquant comme histoire.
Je vais essayer de te trouver d'aussi bonnes histoires, même si sont révoltantes la semaine prochaine, mais je vais avoir de la misère, je pense.
Non, effectivement, quand on voit ça, surtout devant sa fille, ça vient nous fâcher, carrément.
Quand ce gars-là me racontait ça, là...
Mm-hmm.
Je me dis, tu sais, faut que ça arrête ça, au Québec. On est plus intelligent.
En tout cas, à ça, avec la commission, l'enquête, Louis Dionne, avec sa plainte qui va sûrement suivre son cours. Peut-être les réponses arriveront. Merci beaucoup, Frédéric.
Hey, merci.
On se reparle la semaine prochaine. Bye.
Salut, à bientôt.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Le système de justice est là pour nous protéger, les victimes. Si quelqu'un commet un délit, être poursuivi en justice, être condamné selon des règles rigoureuses. Et une des bases de notre système criminel, c'est aussi la réincarcération. Donc, on veut punir et une fois qu'on libère quelqu'un, on va être sûr que c'est un bon citoyen, le réhabiliter. Par contre, il y a des gens qui récidivent et il y a des principes là, avec la commission des libérations conditionnelles, des fois qui choquent les gens, à savoir est-ce qu'on est en sécurité de libérer quelqu'un. On n'a pas le choix de penser au dossier de Marlène Lévesque, Eustachio Galaez, qui est un meurtrier imaginé, qui est libéré, qui est récidive. Donc, c'est terrible de savoir ça parce que première fois que quelqu'un commet un crime, on ne peut pas deviner, là. Mais quand on sait que quelqu'un a cette possibilité-là et qu'il passe à travers le filet puis il recommence, bien, c'est très grave. Et il y a des victimes, il y a une victime du violeur qu'on appelle au dentier, qui, parce qu'il avait perdu son dentier lors d'une agression, c'est de même qu'on l'a retrouvé. Si on parle ici de Jacques Grolot, qui a commis des crimes, qui a récidivé, mais là, au final, on sait qu'il va obtenir ce qu'on appelle la libération d'office. Ça, libération d'office, c'est à la fin de la peine. C'est aux deux tiers. On libère la personne parce que sa peine va finir et c'est plus facile pour contrôler quelqu'un de le remettre dans la société, excusez l'expression, avec une pogne sur lui, vérifier ce qu'il va faire, pour le remettre dans la société avec une supervision que d'attendre que la peine soit finie et là qu'il n'y ait plus aucun contrôle du système sur la personne. Mais évidemment, quand on sait que quelqu'un peut récidiver, ça choque les gens et on en parle avec une de ces victimes qu'on ne peut pas nommer pour les fins du dossier. Bonjour, Madame X.
Bonjour.
Vous voyez cette personne-là qui va être libérée d'office et ça vous choque, ça vous fait peur, là.
Bien, je comprends que, oui, effectivement, je suis choquée, ça me fait peur pour les victimes potentielles. Il est évident que la commission des libérations conditionnelles essaie de faire son boulot, mais pour moi, il est évident aussi qu'en 2011, on a échappé ce criminel, Jacques Grolot, et c'est la juge Morin et maître civil Lemieux qui lui ont mis l'étiquette de délinquant à surveiller quand il méritait
délinquant dangereux.
Et à ce moment-là, quand un récidiviste comme lui a l'étiquette de délinquant dangereux, bien, il n'y a pas de date limite à son incarcération. Mm-hmm. Donc, le système n'est pas dans l'obligation de le libérer automatiquement aux deux tiers de sa sentence. Alors voilà. Et avec l'historique qu'il a, il faut comprendre qu'il a fait 3 générations de victimes. Jacques Grolot a été condamné une première fois en 1981 pour des vols qualifiés et des viols. Il a été mis aussi en 1981 sur un programme pour les délinquants sexuels.
Okay.
Malgré tout, il s'est évadé de la prison de Cowanville en 1986 en prenant bien soin de fabriquer avec des draps un mannequin pour l'installer dans son lit de cellule pour berner les surveillants. Et là, il s'est sauvé de Cowanville en volant une voiture pour se rendre à Montréal et à peine quelques heures après le début de son évasion, Jacques Gaulot commettait des vols qualifiés et violait deux femmes, ça moins de 24 heures après le début de son évasion.
Terrible.
Et il a continué des frasques pendant les trois jours jusqu'à temps qu'on le retrouve. À ce moment-là, il a évidemment été recondamné. Il a fait 15 ans. Il était incarcéré 15 ans plus 2 ans parce qu'à l'époque, on pouvait garder un délinquant quand on craignait pour la sécurité. Donc, il a fait 17 ans. Mm-hmm. Il est sorti. Apparemment, il était malade. Donc, on lui a greffé, je pense, ce que j'en comprends, on l'a soigné. On lui a greffé un rein, je crois, en 2007. Et en 2008, il a recommencé. Entre 2008 et 2010, il a fait 5 nouvelles victimes que l'on connaît.
C'est terrible. Là. Il avait purgé une peine, libéré et recommence, récidive.
Ce qui est choquant, c'est que comme victime de la deuxième génération de ces crimes, j'avais consulté une juriste, une criminaliste, avant qu'il ne recommence parce que j'étais hantée par le fait qu'il pouvait recommencer. Et on m'a répondu à l'époque, madame, faites-vous-en pas, c'est un vrai, passez à autre chose. La prochaine fois qu'il recommence, on ne manquera pas. Mais là, ce qui arrive, c'est que la juge Morin l'a échappé.
Mm-hmm.
Et là, on se trouve devant un individu avec des risques de récidive très élevés parce qu'on sait là, que ceux qui sont en criminalité ou les psychologues savent qu'il n'y a rien qui prédit mieux la possibilité d'une récidive pour un délinquant sexuel que l'existence de récidives antérieures. Puisque plus le nombre de délits antérieurs est élevé, plus le risque de récidive s'accroît de manière significative.
Mm-hmm.
Et tout ce que Jacques Gaulot nous a démontré, c'est qu'il récidive.
Donc, on va le libérer en attente qu'il recommence. C'est...
Pratiquement.
Mais là, c'est la question qu'on se pose, parce que là, il est pas libéré encore, je crois. Et là, on le sait, on s'en était parlé en ronde aussi. Bon, la libération d'office est automatique. S'il y avait eu à l'époque, là, on le répète, il avait été déclaré délinquant à contrôler, dangereux, pas à contrôler, mais dangereux. On toute sa vie, on aurait cette possibilité de le garder incarcéré. Mais quand même, il y a une exception de l'exception à la libération d'office. Si quelqu'un, par des rapports d'experts, démontre vraiment qu'il est un risque évident pour la société et qu'il va récidiver en sortant, mais ça, on semble pas qu'il y ait avoir de rapport dans ce sens-là, là.
Ben en fait, comme victime, j'ai accès à certains aspects du rapport du plan correctionnel.
Mm-hmm.
Ce que j'ai appris récemment et ce qui m'a choquée, c'est que certaines étapes ne sont pas évaluées et je pensais que le rapport était bâclé pour finalement avoir l'explication de mon agente d'aide aux victimes que ce n'était pas des oublis, mais des omissions volontaires parce qu'on ne veut pas que mettre l'accent sur les points négatifs du délinquant pour qu'il puisse obtenir, j'en comprends, sa libération d'office, ce que je trouve choquant, inacceptable, donc de prendre des décisions sans avoir leur juste, finalement.
Mm-hmm. Bien, parce que cet élément de récidive, après sa première peine, semble-t-il être considéré par la commission?
Ben en fait, les autres dossiers sont fermés. Ce que j'en comprends, c'est qu'il va avoir son agent va avoir accès à ces informations-là. Mais il a quand même purgé ses peines, il a payé sa dette envers la société. Donc je peux pas vous expliquer non plus. Je suis pas juriste, hein.
Ouais.
Je suis criminaliste.
Ouais.
Alors je peux pas vous expliquer tous les dessus et les dessous.
Mais pour vous, moi c'est plus pour vous, on vous a pas expliqué ça là. Pour ce que vous en savez du dossier, c'est qu'il va être libéré. Là. Il n'y aura pas d'audience.
Ben, c'est sa libération d'office. Mm-hmm. Il va être soumis à des conditions. Mais il faut comprendre aussi que la commission de libération conditionnelle peut être en désaccord, en fait, avec ce que le plan correctionnel propose ou le système carcéral. Donc, la commission a le pouvoir de ne pas être d'accord avec un agent qui recommande le maintien en incarcération, mais elle peut aussi être en désaccord avec la libération d'office.
Mm-hmm.
Donc, il y a encore, la commission a encore ces droits-là. On semble beaucoup plus frileux à s'objecter à une libération, une libération d'office qu'à un maintien en incarcération, en tout cas. Ça semble pas...
Ce qui semble... C'est quoi la valeur des victimes dans tout ce processus-là? Là? Sentez-vous que vous pouvez avoir un impact là-dessus?
En fait, on a un impact dans notre déclaration, qui est très intimidant dans notre déclaration. C'est que pour qu'elle soit efficace, bien, on doit vider le cœur et on doit être le plus transparent possible. En même temps, ça fait partie des droits constitutionnels du délinquant de nous lire. C'est très inconfortable. Et à ce moment-là, on se remet à nu devant notre agresseur, finalement.
Okay.
Et avec toute cette lourdeur de système-là et de non-sens, évidemment, dans ce dossier-là, parce que comprenons que je ne suis pas contre la réinsertion sociale, tout le monde a le droit de faire une erreur dans sa vie.
Oui, mais vous voulez protéger d'autres jeunes filles comme vous qui pourraient être agressées.
Bien oui, parce que la seule chose qu'il a démontré, c'est qu'il est récidive.
Mm-hmm.
C'est tout ce qu'on sait de lui.
Parce que c'est un peu de bombe pour vous, si vous pouvez aider, est-ce que d'autres ne soient pas agressés?
C'est pas juste aider, il faut comprendre que ses victimes passées sont liées à lui et que chaque fois qu'il va récidiver, comme moi, quand il a récidivé, j'ai eu un stress post-traumatique et c'est déclenché. Ça nous affecte aussi encore et ça nous affecte.
Avez-vous peur de représailles de sa part ou s'il est en liberté?
Je n'ai pas y pensé.
OK, bon. Je ne veux pas vous mettre ça dans la tête. On espère que non. Mais pour ça, je sais que vous avez été dans les médias beaucoup. Là, on espère là, que peut-être que ça va aux oreilles des bonnes personnes. Il faut, avant de libérer quelqu'un qui a récidivé comme ça, tu sais, attendre qu'il y ait une autre victime, ça ne doit pas fonctionner comme ça. C'est une fois qu'on les appelle les tueurs d'armes, c'est pas pour rien. Attendons pas qu'il y ait d'autres victimes. C'est lors de la libération que c'est important.
Je vais plus loin. Ce n'est pas juste des tueurs d'armes. Surtout dans le cas des délinquants sexuels, un viol, c'est un meurtre qui laisse la personne en vie.
C'est vrai.
C'est pas moins que ça. Et ça prend des décennies à se guérir si on réussit.
Non, vous le décrivez bien. C'est assez grave. En tout cas, on espère que ça va être entendu. Puis félicitations, moi, pour votre combat pour protéger d'autres victimes potentielles. Merci beaucoup. Là, puis on suivra ça avec attention. Bonne journée.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Avocat à la barre.
Alors je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
Le ministre québécois de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a annoncé cette semaine, lundi, qu'il va confier à un groupe de travail le mandat de jeter les bases d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale. C'est un comité qui va voir à faisabilité. On parle ici de tribunaux spécialisés dans ce domaine-là. On sait, bon, il y a des causes médiatiques qui ont choqué des personnes. Avec, on parle d'Éric Salvaire, Gilbert Rozon. On n'est pas sûr que le tribunal normal a vraiment tous les outils nécessaires pour bien prendre en charge les victimes. Donc, c'est un tribunal qui permettrait de mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales qui se sentent souvent délaissées par le processus judiciaire. Je vais vous dire, ça a quand même changé beaucoup, là. Mais si on allait plus loin, ce serait vraiment un tribunal spécialisé. Et on en parle avec Maître Sharon Otis. Bonjour, Maître Otis.
Oui, bonjour, Maître Bernier.
Est-ce que c'est une bonne chose de spécialiser ce genre de tribunal-là?
Bien, regardez, à ce que j'ai lu de la lecture, parce que le rapport est déjà sorti, hein, le rapport du comité d'experts là, sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles a été émis, là, déposé le 15 décembre dernier. Il y a 190 recommandations, mais qui se retranchent là en quelques catégories, si on peut dire ça comme ça.
Okay.
À ce que j'ai vu, ça semble bien. C'est là pour, je pense, redonner la confiance du public envers le système judiciaire sur surtout les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, mais également, ils veulent que la victime, il assure à la victime l'accompagnement psychosocial et judiciaire de la victime. C'est-à-dire que dès l'intervention policière, il y aura un intervenant qui serait déjà sur place, qui lui, cet intervenant-là, va être là dans tout le cheminement de la personne. C'est-à-dire à toutes les étapes, même au procès, même il va suivre cette victime-là. Mais sauf que il y a déjà un travail d'accompagnement qui est fait par la CAVAC. Donc, et on parle que cet organisme-là manque de fonds, manque de budget. Je pense qu'on serait peut-être mieux de mettre du budget là-dessus versus peut-être ce nouveau processus-là, parce que vous comprenez comment ça va être compliqué, je pense, à mettre ça en branle, qu'un intervenant puisse suivre la victime partout dans tous les accès. En tout cas.
Ben oui, puis ça a beaucoup changé. Puis justement, maintenant, il y a la CAVAC qui supporte les victimes. Quand on va au poste de police, il y a des travailleurs de social. Quand on fait des plaintes, ça a beaucoup changé là, depuis le mouvement, moi aussi, là, déjà. Là.
Ben oui, puis c'est ça sa mission, la CAVAC. Donc, moi, je me dis, mettons l'argent où il le faut. Puis c'est pas mauvais. Et je suis bien d'accord. Et que la CAVAC puisse mieux assurer l'accompagnement avec les fonds disponibles. Après ça, une autre des préoccupations du rapport, c'est de faciliter l'accès et l'intégration aux services offerts aux personnes victimes, c'est-à-dire SOS victimes, violences, etc. Tout ça. Mais sauf que ça, ces choses-là, à mon sens, à moi, c'est déjà fait par la CAVAC. La troisième mission, c'est de faire en sorte que d'assurer des conseils et des conseils juridiques. Que la personne soit victime, mais qu'elle veuille porter plainte ou pas, elles ont droit à ces conseils-là juridiques d'environ 4 heures. Ce que j'en comprends aussi, c'est ce que je trouve bien, c'est que au niveau de la loi sur la protection de la jeunesse, ils veulent faire une modification à l'article 38, c'est-à-dire l'article qui dit que lorsque la santé et la sécurité, c'est quoi les motifs de compromission? Où est-ce que sa santé et sa sécurité sont compromises? Et le fait qu'un enfant soit exposé à la violence conjugale deviendrait un motif de compromission. Donc là, on se retrouve Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Okay. Mais là, où est-ce que je débarque? C'est que la Cour du Québec aurait le pouvoir d'accorder une pension alimentaire et une prestation compensatoire. Donc, une prestation compensatoire, je pense pas que c'est le bon, avec respect, là. Je pense pas que c'est le bon forum, là.
Parce qu'on vient comme mélanger, parce qu'habituellement, il y a du droit familial là, qui se passe devant la Cour supérieure, mais là, il y a une plainte avec des agressions, violences conjugales. C'est comme si la portion criminelle vient jouer dans la portion du droit familial.
Ben, ça le frôle un peu. C'est sûr que tout est relié. Donc, c'est pour ça qu'ils essaient de centraliser tout au même tribunal. Sauf que on peut pas se prononcer sur une prestation compensatoire ni une pension alimentaire. Là. Pour faire une preuve de pension alimentaire, des fois, là, ça prend une journée de procès. Parce que des fois, il y a des revenus occultes, des revenus, disons-là, un bon Québécois, faire du noir. Mm-hmm. Et ça doit être compris dans la pension. Ça finira plus de finir. Et la prestation compensatoire est beaucoup plus du ressort en matière familiale, parce qu'une prestation compensatoire, ça a pour effet l'objectif, là, c'est de compenser les pertes subies par l'un des conjoints au profit d'un autre. Là. On okay. va vraiment rentrer là-dedans. Ça va pas là.
OK, je comprends. Ensuite,
on parle aussi, on vient enfin lever l'aspect pour les Autochtones. OK, les Autochtones dans le rapport, là, parce que le comité, il a noté qu'il y a des manques de services dans les communautés autochtones et qu'il y a des manques de services aussi psychosociaux adaptés aux Autochtones vivant dans des milieux urbains. Donc, il y a plusieurs lacunes et je pense que c'est ressorti là dans les médias là quand on pense au traitement là, qu'on avait vu, entre autres, la madame qui est décédée sur son lit d'hôpital. Là, okay. Elle l'avait pas filmé. Mais c'est un genre d'exemple, mais de tout centraliser, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, oui, c'est bien ce qu'ils ont dit, comme considérer, par exemple, le port du bracelet électronique, sécuriser les victimes, tout ça, mais moi, je pense qu'on a un bon système présentement qui est mis en place.
Mais le port des bracelets, ce n'est pas lié à un tribunal spécialisé, là, c'est de mettre des mesures adéquate, efficace. Là, ça, c'est un bon débat parce que ça n'a pas d'allure qu'en 2021, on n'est pas ça. Là. On pourrait éviter des drames familiaux, des meurtres, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ordonnances de paix de 810 qu'on appelle puis qui ne respectent pas. Mais c'est ça, je comprends. Là, on veut, en faisant un tribunal spécialisé, on veut tout régler aux alentours, mais en réalité, on n'a pas besoin de tribunal spécialisé pour régler des choses qui fonctionnent mal en matière d'agression sexuelle puis de violence conjugale.
On a juste à mieux accompagner, mais c'est louable là, ce qu'ils font là. Moi, je mm-hmm. j'appuie les victimes, c'est certain, mais sauf que dans le système judiciaire présentement, je ne pense pas que ça va être excusez-moi, mais ça va être le bordel. Si c'est mis en application, là, ça pourra pas fonctionner. Et comme je vous donnais l'exemple d'établir une prestation compensatoire en Cour du Québec, si le dossier en chambre de la famille n'est pas réglé, vous comprenez qu'on fait deux jours d'audition pour la même preuve, et pas pour la même preuve, parce qu'on ne touchera pas à ça, mais ça évite pas à la victime, vous comprenez, d'éviter des multiplicités de procédures. On n'a pas le choix.
Okay.
Il y a des compétences et c'est comme ça. C'est de la compétence de la Cour supérieure, mon sens à moi.
Vous écoutez
Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
On est en pré-enregistrement, on est jeudi aujourd'hui. Il fallait rejoindre notre chroniqueur maître. On pourrait l'appeler maître, mais non, l'analyste politique américaine, Luc La Liberté. On parle évidemment du procès de Donald Trump qui a commencé aujourd'hui. Salut Luc, je te mettrai pas dans le trou avec le barreau en t'appelant maître, mais on fait du aux États-Unis là, c'est un procès, mais il y a beaucoup de politique dans tout ça là.
Ben voilà, ça rappelle hein, le déroulement puis les termes utilisés pour ceux qui représentent les deux camps, républicains ou démocrates, ou encore démocrates et Donald Trump. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise qui sont des termes qu'on emprunte au droit. Par exemple, on va parler du côté des démocrates, des procureurs démocrates,
ouais.
Ceux qui sont chargés d'introduire la preuve puis d'étayer la preuve contre Donald Trump. Mais c'est effectivement, faut jamais l'oublier, une procédure qui est essentiellement politique. Ça C'est-à-dire que peu importe la conclusion à laquelle on va en venir, quand on écoute les commentaires ou quand on écoute la preuve, reste que ça risque bien de se terminer selon essentiellement les lignes de parti.
Mm-hmm, OK. Et justement, rappelle-nous, là, parce que tout ça va se dérouler, là, et, là en ce moment, les démocrates font leurs preuves. Donc, c'est quoi un peu leur angle de stratégie, là?
Ben voilà, donc au départ, hein, ça s'est ouvert mardi de cette semaine. Le débat, moi, qui m'intéressait, il avait lieu là. Le reste, on l'avait déjà vu. Donc, mm-hmm. on va en faire un spectacle un peu pour la galerie, là, plus pour convaincre l'ensemble des Américains que les sénateurs. Mais au départ, on débattait de la constitutionnalité de la démarche. Donc, grosso modo, on s'interrogeait sur deux angles. Un, est-ce qu'on peut poursuivre un président en destitution lorsqu'il n'est plus en fonction? Mm-hmm. Les gestes qu'on lui reproche ont été commis alors qu'il était président, mais c'est Joe Biden maintenant qui est en poste. Donc, on a voté, selon encore là les lignes de parti, avec quelques républicains quand même, on a voté pour dire oui, on peut le faire. On s'interrogeait aussi, puis on évoquait dès cette première journée où on débattait de la constitutionnalité, on s'interrogeait aussi sur la protection de la liberté d'expression. Est-ce que les républicains s'emploient à utiliser ses avocats, M. Trump, comme les sénateurs républicains? Plusieurs ont dit qu'il ne faisait qu'exercer sa liberté d'expression. Mm-hmm. Vous allez devoir faire la preuve, finalement, qu'il avait l'intention d'inciter ces gens-là à se soulever puis à attaquer le Capitole.
Ben oui.
Non, voilà, et c'est là où ça devient aussi intéressant dans la preuve. Toujours en sachant, bien sûr, que ça se joue quand même entre républicains et démocrates. Mais donc, on avait, après jeudi, on avait trois journées essentiellement où les démocrates étayaient leurs preuves. Eux vont jouer sur le fait que c'est carrément de l'insurrection à laquelle a incité le président. Et on n'a rien inventé de fait, mais on a joué la totale. C'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu le 6 janvier, entendu et vu à la télévision, les discours du président, puis ensuite les mouvements de foule, les mouvements de ses partisans qui sont parvenus à entrer au Capitole, c'est très clair qu'il y a un lien entre les deux. Donc, les démocrates ont joué là-dessus. La preuve, elle est assez accablante.
Pour eux, c'est une forme de préméditation de Donald Trump?
Ben voilà, c'est carrément, il est responsable. Ce qu'on fait ressortir, là, il y a des enregistrements qui sont disponibles d'ailleurs, des montages qu'on a fait. Les montages sont réalisés, bien sûr, par l'équipe démocrate, mais tout ça, ce sont des faits, des images qu'on a pu voir le 6 janvier ou encore qui ont circulé après, parce que les manifestants ont eu la bonne ou la mauvaise idée pour eux de se filmer en train d'attaquer le Capitole, puis on les entend s'exprimer. Ouais. Et on fait jouer du côté démocrate, c'est assez habile, hein, si on veut marquer les esprits, ben on fait jouer les propos du président, on l'entend. Et ensuite...
Là, est-ce qu'il est scindé? On appelle ça en droit être scindé, prendre un bout d'un discours, par exemple, qui fait notre affaire, puis couper celui qui ne fait pas notre affaire. Est-ce que ça ressemble à ça?
C'est-à-dire que dans le cas de Donald Trump, on n'aurait pas grand-chose à couper, parce que le président, dans son discours, ce qu'il faut démontrer, c'est « j'avais l'intention que ce soit violent ». Mais c'est très clair dans les propos du président qu'il leur demande de renverser le résultat de l'élection. Maintenant,
Me semble que j'ai entendu qu'il dit ça, de faire ça en paix ou peacefully. Ça se peut-tu ou?
Ça, il va faire cet appel après. Au calme très, très modéré puis très prudent. Il va le faire après.
Okay.
Et ce que je disais, donc, c'est que le découpage était... C'est très difficile de présenter ça avantageusement pour Donald Trump. Et donc, on entend ses propos, mais ensuite, ce qui est intéressant dans la preuve démocrate, c'est qu'on entend les gens attaquer le Capitole en disant carrément « on fait ce que le président vient de nous demander de faire ». On dit même aux agents de sécurité qui étaient là ou aux représentants des forces de l'ordre « c'est votre boss qui nous demande de faire ça ». Le boss, bien sûr, la référence étant au président des États-Unis. Mm-hmm. Donc, on a des sénateurs républicains et démocrates qui vont être les juges, hein, probablement qu'on va voter. Ce serait étonnant en fin de semaine, c'est pas impossible. Peut-être lundi. Mm-hmm. Mais donc, quand on va se prononcer, républicains et démocrates ne peuvent pas dire ce qu'on voit là est acceptable.
Ouais. Mais ça, on va arriver, Luc, à la fin, on va parler des possibilités, les chances, mais dans l'argumentaire, je veux dire, puis là, je prends pas parti, mais je m'amuse, on s'amuse un peu.
Bien sûr.
Parce que Donald Trump n'a jamais demandé de faire ce qui a été fait. Là. Lui, c'était plus dans, si je me rappelle bien, c'était très vague ce qu'il disait. Il a pas dit « allez maintenant marcher sur le Capitole ».
Voilà, ce qu'il dit, hein, grosso modo, c'est « aller manifester au Capitole and fight like hell », en anglais. Donc, hein, débattez-vous, il faut combattre. Si on veut la survie de notre pays, de notre régime, si vous voulez encore avoir un pays, mm-hmm. il va falloir se battre. Maintenant, on le sait très bien, ça peut être une figure de style. Et c'est l'argumentaire qu'utilisent les Républicains.
Okay.
Tout le monde, il n'y a personne qui va dire ce que les manifestants, ce qu'on les a vus faire, c'est intolérable. Il faut éviter que ça se reproduise. Ce que disent les Républicains, c'est malgré ce que les démocrates font jouer, il faudrait déterminer l'intention de Donald Trump et a-t-il prononcé les mots exacts qu'on lui reproche, ce que ça a donné dans les résultats. Mm-hmm. Donc, ce qu'on essaie de montrer du côté démocrate, c'est écoutez, ça faisait des semaines qu'il remettait l'élection en question, qu'il disait qu'il avait été victime de manipulation, de fraude électorale, puis qu'il fallait renverser le résultat. C'est ce que ces manifestants disent vouloir faire au nom du président. Mais ouais. Les républicains, certains bien sûr qui ont encore, qui ne peuvent pas se passer des électeurs de Donald Trump, ils vont pas le pointer du doigt.
Non.
Donc ils vont dire c'est inacceptable ce qu'on a vu, mais dites-nous que c'est autre chose que la liberté d'expression. On a dit d'ailleurs François David, puis ça j'imagine que pour un avocat c'est encore plus de punch que pour l'historien. ce qu'on a dit déjà, c'est vous devez prouver l'intention et
ben
les
oui.
mots justes. Et ça, c'est le premier amendement à la Constitution qui veut ça. Sinon, ce qu'on a dit, c'est quel politicien n'a pas déjà prononcé un discours enflammé dans lequel on utilise des images, mais ce ne sont que des représentations, hein? On n'est pas dans le concret. Donc, c'est vers ça que se retranchent à la fois les avocats du président et les sénateurs républicains. Certains d'entre eux ont déjà dit qu'ils allaient voter.
Ouais.
Contre la destitution.
Moi, je plaiderais deux choses. Celle-là, ça, c'est un bon angle parce que je pense pas qu'il a dit textuellement, marcher sur le Capitole, soyez violent. S'il avait fait ça, c'est certain qu'il serait responsable, mais il ne peut pas être respi. On sait en plus que sa base elle peut s'enflammer plus que lui pourrait le faire. Puis l'autre élément que je plaiderais, que là, je suspecte que c'est ce qu'ils veulent faire politiquement parlant, je tablerais sur, on fait pas indirectement ce qu'on peut pas faire directement, de vouloir destituer un président qui n'est plus en fonction. La seule volonté de ça, c'est faire qu'il ne se représente pas. Et là, c'est une atteinte à la démocratie parce que s'il se représente pas, ben, tous les électeurs qui voudraient voter pour lui sont privés de le faire. En tout cas, j'irai
oui,
là.
Et puis, tu vois, t'as utilisé les bons termes aussi. Les avocats de Donald Trump, ce qu'ils invoquent, c'est idéalement, là, en démocratie, on laisse la population se prononcer et regardez, elle vient de se prononcer. C'est Joe Biden qui est président. M. Trump n'a pas été réélu. Mm-hmm. Donc, il a déjà eu sa sanction au plan démocratique. Il a été battu. Ce que la carte que jouent les démocrates ensuite, elle est très émotive parce qu'on veut faire de l'effet. L'autre carte, c'est il faut quand même qu'on le poursuive parce que si on ne réagit pas à ce que fait Donald Trump comme président, puis en incitant des foules à aller manifester, puis ça tourne à la violence, c'est comme faut mettre ce qu'on appelle c'est la ligne rouge qu'on
ouais.
trace dans le sable pour dire on peut pas se permettre d'aller au-delà de ça. C'est indécent de la part d'un président de se comporter de la sorte.
Ouais.
Donc tous ces arguments-là sont sur la table.
Puis de l'autre côté, Luc, on va dire oui, mais par contre. Justement, si ce qu'il a fait, c'est pas correct, ben l'électorat va décider s'il y a un président a bien agi.
Mais si je suis un avocat démocrate, je vais te répondre, François David, ce bout-là est tout à fait vrai, puis dans le meilleur des mondes, ça ne se règle qu'en la démocratie. Mais pourquoi alors les penseurs auraient-ils mis la procédure de destitution dans notre système si on est dans l'incapacité de s'en servir parce qu'on veut toujours laisser la population se prononcer? La
ouais.
procédure de destitution est justement là au cas où, dans l'intervalle, entre deux votes de la population, un président commette des gestes qui sont inadmissibles.
Ouais. Mais moi, je répondrais, dans l'histoire, lorsqu'il y a eu des décisions, c'était sur des événements très tranchés quand même. C'est rare qu'il est allé dans un flou sur... Tu sais, je comprends l'atteinte de dire que l'élection est pas valable. C'est sûr que c'est comme un juriste, je fais le parallèle, on peut pas démolir le système, sinon on va se faire radier. On peut pas dire le système, c'est de la
voilà.
M, là. Je comprends. Dans le fond, le président peut l'atteindre, c'est ça. C'est qu'il il a pas seulement critiqué le système, mais il l'a carrément renié, là, en disant qu'une élection, c'est de la fraude, puis tout tout ce qui a été fait, c'est de la fraude. Peut-être, là, ça peut être tranché, mais pour la levée au Capitole, c'est désastreux ce qui est arrivé, mais je vois mal qu'on peut lui attribuer directement...
Voilà, c'est très, très, très... C'est là où même, devant un tribunal, il y aurait vraiment un enjeu, il y aurait véritablement un débat sur cette question-là. Puis ça, ce bout-là, tu l'as vécu, tu le vis, tu l'étudies beaucoup plus que moi. Donc, devant un tribunal, c'est la preuve, c'est l'intention puis les mots exacts qu'on remettrait en question. Moi, ce qui me déçoit comme prof, parce que j'enseigne tout ça après, j'entre en classe puis je dis, ben voici ce que la Constitution dit ou ne dit pas,
ben oui.
C'est que dans un processus partisan, finalement, on ne va pas trancher un certain nombre de choses qu'on devrait trancher dans la Constitution américaine. Par exemple, quand on en est encore sur des interprétations, à savoir, peut-on poursuivre ou continuer à poursuivre un président en destitution quand il n'est plus là, les constitutionnalistes ont presque tous dit on a le droit de le faire.
Okay.
Mais c'est pas écrit nulle part. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on constate qu'il existe des flous, hein, qu'il existe des creux, des zones d'ombre dans la Constitution américaine. Moi, j'aimerais ça qu'on éclaire ensuite le contenu de la Constitution. Malheureusement, ça, on ne le fera pas.
Non.
On a entendu les avocats des deux camps, mais on n'a rien tranché sur cette question.
Parce que de toute façon, on n'a pas le temps de l'expliquer, on en reparlera. Le vote sera politique. Est-ce que 12 républicains vont défroquer, je pense, c'est ça le chiffre?
C'est-à-dire qu'il y en a déjà 5 dont on pense. Il en faut 17 des républicains au total qui votent.
Mais il y en a 5 qui pourraient, là. Ouais.
Okay. Il y en a 5 dont on s'attend à ce qu'ils votent pour la destitution, mais il en manque donc 12 autres.
Ouais.
Et 12 autres, d'ici à la fin de semaine ou à lundi prochain, écoute, je serais prêt à parier quand même pas mal pour dire Donald Trump va s'en tirer
une
deuxième fois.
Ça prendrait justement, il reste la plaidoirie. Ça prend des méchants avocats pour changer l'opinion de 12 républicains. Merci beaucoup, Luc. C'est tout le temps qu'on avait. Très intéressant. Bon, on suit ça avec attention, mais on s'en repart.
Parfait. Une bonne fin de journée. Salut aux auditeurs. Bye.
Bye.
Cube Radio.